Les nuits de France Culture. Qu'est-ce qu'un grand cinéaste ? Celui, sans doute, qui, mieux que tout autre, sait filmer l'universel dans le particulier, dans la singularité d'un pays, d'un peuple, d'une société. À la fin des années 80, en découvrant les films de Abbas Kiarostami, alors qu'on n'imaginait peut-être plus que le cinématographe presque centenaire ait encore des personnalités de ce genre à offrir, on découvrait qu'au cœur de la théocratie iranienne vivait un réalisateur qui croyait au cinéma, comme y avaient cru Renoir, Ford, Mizoguchi ou Rossellini. C'était avec « Où est la maison de mon ami ?» Allez suivre « Devoir du soir »,« Close-up » et « La vie continue » au travers des oliviers et en 1997 « Le goût de la cerise », un film auquel fut décernée la Palme d'or du 50e Festival de Cannes à égalité avec « L'anguille » de Shoei Imamura. En décembre 1997, René Elkaïm Bollinger consacrait un numéro de ciné-club à Abbas Kiarostami, qu'elle avait interrogé à Paris lors de la sortie du Goût de la cerise. Une émission dans laquelle un réalisateur et historien du cinéma, Farrokh Ghaffari, un documentariste, Barmak Akram, une réalisatrice, Mojdeh Fahmili, un critique, Michel Simon, et une figure familière des cinéphiles parisiens, Mamad Arirat, directeur du cinéma Le Quartier Latin, disait tour à tour ce qui faisait la beauté et la force du cinéma de Abbas Kiarostami. Comment Abbas Kiarostami, disparu en 2016, a-t-il pu nous donner des films qui, dans leur apparente simplicité, nous restituaient au plus haut degré d'évidence la vérité de la vie ? C'était ce que tentait de saisir le numéro de Ciné-Club que nous allons entendre. Ciné-Club, Abbas Kiarostami, première diffusion le 3 décembre 1997 sur France Culture.
Un dimanche de novembre très brumeux, rencontre avec Kiarostami dans un restaurant du 6e arrondissement.
Est-ce que vous voulez bien jouer l'affiche d'identité ?
Abbas Kiarostami hastam, mutavallid Tehran, irani, mutavallid 1940 va tarikh va shomare shnasnam 589, farzand Ahmad va pedar Ahmad. Aussi.
Je m'appelle Abbas Kiarostami, je suis né en Iran, à Téhéran, en 1940. Et mon numéro de carte d'identité est de 589. Mon père s'appelait Ahmad.
Et mon fils aussi.
Et mon fils s'appelle Ahmad aussi.
Que faisait votre père ?
Corps.
Mon père travaillait.
Dans quel domaine ?
Un travail assez difficile de tous les jours.
Il veut pas, vous ne voulez pas dire ce que faisait votre père ?
Il était peintre, mais pas de petit format, mais de grand format.
C'était des travaux sur le mur, des fresques qui ne restaient pas et qui disparaissaient avec la ruine des murs. Rien n'est resté et il n'est jamais devenu un peintre. Donc son travail, il faisait partie, enfin c'était un genre de travail comme Sisyphe et où il fallait toujours recommencer. Quoi.
Abbas Kiarostami, lunettes sombres qu'il accepte volontiers d'échanger avec des lunettes plus claires. On voit son regard. Avec nous, deux traducteurs, amis, Mojdeh et Barmak.
Abbas Kiarostami, quelle est votre profession ?
این برنامه جدیه شوخیه.
من این میشن سریوز و
خب من جواب میدم. به هر حال این روزها فقط پر حرفی. باور، je suis bavard beaucoup. از بعد از جایزه کن شغل اساسی مینه.
Après la palmarès, c'est ça mon travail, bavardage.
شغلم به کلی عوض شده. الان باید سر لوکیشن فیلم بعدیم باشم، ولی هی دارم دور میچرخم و حرف میزنم راجع به یه کار غلطی کردم.
Ma profession finalement a changé. Je dois être maintenant à Téhéran sur le lieu de mon prochain film, mais au contraire, je suis ici en train de bavarder et c'est un faux métier. Et si on définissait la profession comme un travail par lequel on gagnait sa vie, oui, ma profession est le cinéma. Je suis cinéaste parce que je gagne ma vie aujourd'hui par ce travail-là.
Et on dit aussi en français, on dit réalisateur. Réalisateur, ça a un rapport avec le réel.
یعنی بر اساس
واقعیت یه چیزی رو می‌سازی. Il a compris.
به نظرم هم آره و هم نه، به دلیل اینکه اگر همش نعل به نعل بر اساس واقعیت باشه که چیز زائدی است، به قول گودار میگه زندگی فیلمی است که بد ساخته شده.
گودار a dit que la vie est un film qui est mal fait, alors donc on le refait à sa manière.
میگم اگر سینما، اگر یعنی رئالیزاتور، یعنی کسی که به واقعیت وفادار باشه، من رئالیزاتور نیستم.
Et si le réalisateur c'est quelqu'un qui a un rapport avec le réel, eh bien alors moi je ne suis pas réalisateur.
Ben que moi فکر کنم که ما در واقعیت باید یه مقدار تغییر ایجاد بکنیم. ما میکنیم.
Car je pense que il faut changer le réel.
Intervenir.
Intervenir
sur le réel.
دخالت کردن.
Oui.
در مورد کمک‌های مردم البته خیلی زیاد بوده تا به حال، واقعا از همه مردم کمال تشکر داریم، ولی کن باز به هر حال نیاز هستش که کمک بشه، چون واقعا عمق فاجعه همونطور که همه مطلع هستن.
راه بازه، راه باز نباشه که ماشین عبور نمی‌کنه.
Alors, je vais le mettre en lecture. Farouk Ghaffari, je voulais qu'on revienne sur cette première image du film de Kiarostami et La vie continue, parce qu'elle s'ouvre sur la question, est-ce que la route est ouverte ? Question qui est posée par le personnage principal, qui est le réalisateur, et qui va donc faire tout un trajet jusqu'à un petit village qui est sous les décombres, hein, pratiquement.
Absolument, c'est-à-dire c'est l'utilisation de la voiture, il s'en est expliqué longuement dans ses interviews, et il constate qu'il s'agit pour la voiture d'une petite maison. Dans laquelle on est installé et au contraire de la maison où le paysage ne change pas depuis la fenêtre, la voiture, elle, est en mouvement et que l'on fait du cinéma, du scope, il emploie cette expression, c'est du cinémascope avec une grande image sur différentes vues qui changent constamment.
Thank you.
dès le début du film, moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'en fait, une fois qu'ils ont traversé tous les bouchons, le chemin que tout le monde prend pour aller donc, sur les lieux, et comme si, en fait, la manière la plus commune pour aborder un sujet, c'était celle-là, et à un moment, soudain, il prend une bifurcation et il passe.
Barmak à Kram.
D'ailleurs, il y a une réplique de l'enfant qui, en fait, le saisit. Il dit, mais ça va bien mener à quelque part. Un chemin, ça mène quelque part. Et l'enfant lui dit, mais c'est quoi une impasse, alors? En fait, ce film prend l'impasse et trouve une issue, en fait, au bout de l'impasse. Et pour moi, dès le début du film, soudain, il s'écarte de la vision. Et d'ailleurs, il domine quand il est en haut de la colline. Il y a un plan où on voit les autres voitures, les camions qui passent dans le tunnel et c'est le bouchon. Voilà, c'est comme ça que les gens l'abordent, c'est comme ça que la télévision aborde le sujet. Et bien moi, je vais vous montrer par une autre manière qui est, je prends une impasse. Et il avance comme ça et effectivement, au fur et à mesure, d'ailleurs ça met un peu d'intrigue parce qu'on se demande s'il va y arriver. Si sa manière est bonne. Et en fait, finalement, c'est la question qu'il aborde, comme toujours dans ses films, et pas la réponse.
Papa !
Bale.
Vasail emdadi aliçi.
Ne nirvay komaki diye. هایی که کمک بیرسه من به زلزله زدم
اون که فقط وسایل امدادی میتونن مجازن که عبور کنن یعنی ما نمیتونیم عبور کنیم
چرا؟ حالا یه فکری هم برای اون میتونیم
چه فکری؟
یه فکری دیگه حالا بذار برسیم همیز که نرسیم
J'avais vu où est la maison de mon ami, j'avais aimé.
Mocheté, famille.
Mais la découverte vraiment c'était avec Et la vie continue, qui pour moi reste un film, un grand film. Peut-être pour des raisons très personnelles, parce que je venais de cette région-là, j'avais vécu mon enfance là-bas. Et l'année d'avant, j'avais perdu ma mère. Et exactement au mois de juin, le même moment qu'il y a eu le tremblement de terre, l'année d'après, où c'était justement l'anniversaire de sa mort. Pour moi, déjà, il y avait quelque chose de fini avec peut-être mes origines, mon pays. Il arrive le tremblement de terre. Pour moi, c'était comme si quelque chose était fini. Vraiment, je l'ai vécu comme ça. Je ne vais plus retrouver peut-être les traces d'une enfance, quoi. Et l'année d'après, quand je vois le film, c'était troublant presque de revoir les choses et de voir un deuil que moi-même, j'étais incapable de surpasser, de dépasser, et que ce film m'aidait avec une justesse de ton, parce que moi je suis pas forcément quelqu'un qui aimerait faire deuil à tout prix. C'est ce qu'on reprochait à ce film par exemple, qui ne montre pas toute la grandeur, de toute la immensité de la douleur, de la catastrophe. Mais c'était pas ça. Moi je trouvais qu'avec une justesse de ton, il allait à la rencontre d'une catastrophe, mais il n'appelait pas les gens à être tristes, il appelait les gens de voir la catastrophe en face et de faire de sorte que la vie continue. D'ailleurs, ce film, c'est son cinéma qui est en deuil. Je veux dire, c'est pas le deuil traité dans le film, mais c'est son cinéma qui est en deuil. Et je pense toujours au début du film où les images très découpées, très nerveuses, enfin, je dirais un découpage très nerveux, à mon avis, traduit l'angoisse de quelqu'un qui va rencontrer, qui va voir la catastrophe. On ne peut pas autrement aller voir la catastrophe, sauf avec cette angoisse que pour moi, son cinéma déjà, dans son écriture, dans sa façon de voir traduit. Ensuite, ce qui me choque toujours, parce que je ne peux jamais oublier, c'est tout de suite, dès qu'il arrive à l'endroit, au lieu de la catastrophe, c'est des images souvent de plans d'ensemble, des images larges, très construites. C'est comme s'il voulait soutenir les ruines. Il voulait le mettre en place. Et jamais avec le voyeurisme habituel qu'on voit à la télé ou ailleurs, on n'a pas un gros plan des décombres, des cadavres, tout ce qu'on est habitué à voir. Non, mais avec un respect inimaginable pour moi, il soutenait les décombres. Il les soutenait dans sa façon de cadrer, dans la justesse de son cadre. Arrive près d'une colline, tout comme d'habitude, les collines, c'est un thème quand même chez Kiarostami, une colline avec des crevasses immenses, et la caméra reste comme ça et nous cadre juste ce qui est resté de ce tremblement de terre, ou la fin du film. La fin du film, c'est la scène où on est encore, enfin, tout est cadré de loin, et ça montre le courage et la persévérance d'un seul homme qui essaye de monter une pente et qui rebrousse chemin, remonte. Pour moi, ça traduit ce qu'un peuple est en train de vivre tous les jours. Pour moi, l'ouverture d'un espace, c'est pour donner la sérénité, le calme, et traduire plutôt ce calme dans ces plans ouverts, dans ces espaces ouverts.
نماهای باز اعتبار خیلی بیشتری داره برای اینکه به تماشاگر امکان میده برای اینکه خودشون جستجو کنن و خودشون کادر خودشون رو یک بار شانس بیشتر داشته باشن برای اینکه کادر بعدی رو همون کادری که صحبت شو کردیم روی نمای بزرگ یا باز ببندن، یعنی در یک نمای بزرگ و باز تماشاگر این امکان رو داره که خودش یک نمای با چشمش، یک زوم داشته باشه و خودش در واقع شانس کوب کردن یا در یک نمای بسته تر دیدن رو با خودش داشته باشه، نه با انتخاب بسته من، چون با انتخاب بسته شانس باز شدن نما برای تماشاگر وجود نداره.
Avec un plan large, l'avantage, c'est que le spectateur lui-même peut recadrer dedans, zoomer à la limite sur une partie, et ça lui donne plus de liberté, alors que sinon, ça serait moi qui lui imposerais.
Pourtant, Abbas Kiarostami, quelquefois, vous le privez de cette liberté, le spectateur, puisque vous lui imposez, par exemple, une ouverture de porte ou de fenêtres, de portières de voiture. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
در واقع اون محدودیت محدودیت اندکی است، یعنی توجه بیشتر دادن، مثل قاب‌های نقاشی کلاسیک که چند تا فریم رو توی هم می‌ذارن فقط برای اینکه اعتبار بیشتری به تصویر داخل کادر بدن. قاب در قاب مفهوم چیز نمیده، مفهوم محدود کردن نمیده، مفهوم توجه بیشتر داده.
Dans ce cas-là, en fait, c'est un cadre dans le cadre, et ce n'est pas ce qui restreint la liberté du spectateur, mais qui lui oblige d'être encore plus attentionné à l'image qu'on lui offre, un peu comme un tableau classique qui est cadré avec plusieurs cadres, et qu'en fait, c'est pour montrer la peinture.
C'est une mise en valeur, enfin, de ce qu'on voudrait montrer, et spécialement le recadrer pour attirer l'attention encore plus sur ce morceau-là, pour sa mise en valeur.
Il y a quoi attirer ? Il y a des dahas qab ro tuyam gozhtan, faqat bar inke be ye valeur vaqeie tableau nazik beshe.
Des dizaines de cadres se superposent pour enfin montrer l'image qui est au centre.
De la même manière que Godard dit qu'un travelling c'est une question de morale, eh bien là, j'ai vu un plan très large sur les décombres. Il y a un pan de mur qui est resté debout et il y a une porte. La caméra zoom jusqu'à la porte et à travers la porte montre de l'autre côté la prairie et la vie continue. C'était dans les décombres, j'y vois la vie.
Évidemment, la première image qui me revient d'un film de Kiarostami, ça a été ma découverte de Kiarostami au Festival de Locarno en 1989.
Michel Simon.
Je devais faire un compte-rendu pour le Monde, enfin pour le journal Le Monde, et où j'ai découvert, comme tout le monde d'ailleurs, où est la maison de mon ami. Ce film qui n'était loin d'être son premier, mais qui pour les Occidentaux était le premier film. Et j'ai eu une grande émotion par cette façon d'abord d'appréhender un paysage. C'est-à-dire que j'ai senti une sorte de souffle lyrique, un souffle contrôlé, mais une extraordinaire attention à la texture des arbres, de la prairie, des maisons, des pierres, etc. Un sens assez extraordinaire un génie du lieu, comme on dit de certains écrivains, ils ont le génie du lieu. Et ça m'avait énormément frappé. Il a eu plus tard au Festival de Cannes le prix Rossellini, et je crois que ça ne pouvait pas mieux lui convenir, parce qu'il y avait effectivement, comme dans les meilleurs films de Rossellini, cette façon de capter la réalité comme avec la transparence d'un cours d'eau, c'est-à-dire... comme quand on voit les galets au fond de l'eau, avec cette sorte de transparence que quelques grands cinéastes possèdent.
احمد ما نبود در پشته چی کار داره
Alors après, il y a eu d'autres images, évidemment. Une des plus fortes, c'est la fin de « À travers des oliviers », cette extraordinaire poursuite d'un jeune amoureux éconduit qui essaye de retrouver la femme qu'il aime et de lui faire revenir sur sa décision de ne pas le voir alors qu'il est amoureux d'elle, et qui traverse ce champ et il y a ce plan fixe sur la campagne. Et je dois dire que un peu, la boucle était bouclée, puisque ce dernier plan faisait écho au premier plan de Où est la maison de mon ami, où je découvrais justement ces paysages.
Farrokh Ghaffari, cinéaste et historien du cinéma.
En 69, arrive au cinéma un garçon né en 1940. Ce garçon, c'est Abbas Kiarostami, qui avait fait des études de peinture, de graphisme, de dessin, qui avait fait des affiches, qui avait écrit des scénarios puis réalisé des films publicitaires et avait fait des génériques de films. En 68 est fondé un organisme d'État qui s'appelle l'Institut pour le développement culturel des enfants et des jeunes adultes Et Shirvan Lou, le directeur de l'institut soutenu à l'époque par la reine Farah, donc Shirvan Lou fait appel à ce jeune Kiarostami et lui dit « Viens, on va faire une section de cinéma ». Et la section de cinéma démarre avec le premier film, grande réussite de Abbas Kiarostami, qui s'appelle « Le pain et la rue ». Et il va faire toute une série de films dits très souvent documentaires, mais qui en fait ne sont pas purement, heureusement, documentaires, jusqu'au moment où en 72 ou 14, une première fois, il fait « Le passager », qui est déjà un long métrage, et l'excellent film qu'il fait en 77, qui le classe comme un bon réalisateur de cinéma, c'est le film qui s'appelle « Le rapport ». Rapport dans le sens « rapport écrit par une administration sur une situation donnée ».
« 1987, où est la maison de mon ami ?» « 1990, close up. » « 1992, et la vie continue. » « 1994, au travers des oliviers. » « 1997, le goût de la cerise. »
Majdé Famili, vous êtes iranienne à Paris. Et j'aimerais savoir une chose. J'ai lu que Kiarostami lui-même disait qu'il agaçait beaucoup d'Iraniens. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?
Personnellement, j'ai jamais été agacée par ces films. Il y a des films que j'aimais plus ou moins, mais je trouvais toujours que c'était un cinéaste qui aborder des sujets qui étaient originaux, son cinéma était original, donc pour moi était toujours une découverte. Et pourquoi les Iraniens seraient en partie agacés? Peut-être parce qu'enfin, il faut dire quels Iraniens, parce que en grande partie peut-être le spectateur iranien en sa majorité est très habitué quand même à un cinéma de narration très classique. Il faut raconter une histoire avec tout ce qu'on connaît de ce cinéma et que peut-être serait surpris de voir des films où on raconte, il y a une histoire mais on raconte pas forcément une histoire. Et après, il y a peut-être les Iraniens en Occident qui voient ces films et qu'une partie, ça j'en suis sûre qu'ils admirent ces films, et l'autre partie peut-être n'y trouve pas son compte, dans le sens où Kiarostami n'est pas quelqu'un qui forcément s'occupe de la question politique ou n'aborde pas directement, et donc, il traite les sujets de façon qui lui est propre, même à mon avis, les sujets sociaux ou même politiques, mais qui n'est pas forcément de façon à prendre position, qui n'est pas forcément à donner des directions.
Farouk Ghaffari. On a résumé toutes les censures actuelles possibles dans le cinéma iranien. Je lis quelques extraits de ce règlement. Selon le règlement de réalisation des films en vigueur en Iran, il est interdit de promouvoir toute idéologie interdite par la loi ou opposée à l'ordre islamique, d'utiliser des prénoms ayant des racines religieuses pour des personnages négatifs. Pour la femme, exhiber les cheveux, la nuque ou les bras. Toute partie du corps, à l'exception du visage et des mains, devra être couverte. Changer et varier les costumes des acteurs durant le film sans justification logique. Utiliser des coupes de cheveux qui symboliseraient l'appartenance à des groupes effrontés, comme les rappeurs. Faire un gros plan sur un visage féminin. Faire porter le tchador au personnage négatif. Et il y en a beaucoup d'autres. Alors, qu'est-ce que c'est ce cadre-là ? Est-ce que c'est une répression d'ordre moral? On s'est posé la question, justement, ou qui porte plutôt sur les mœurs, au fond?
Vous savez, vous venez de lire quelques extraits d'un livre, d'un petit livre de 40 et quelques pages, paru à Téhéran il y a un an, et qui réglemente absolument l'ensemble de l'industrie du cinéma avec ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. La censure a toujours existé dans le cinéma iranien. Du temps du Shah, la censure portait essentiellement sur des propos politiques. Évidemment, tout ce qui était à gauche, progressiste et tout ça était condamné, absolument pas possible de l'aborder, et aussi il était formellement interdit de montrer un prêtre pour éviter de le ridiculiser à l'écran, parce que à l'époque on tenait à ne pas froisser du tout les sentiments des religieux. Et aussi, évidemment, tous les trucs, c'est un peu excessif si j'ai dit sexuel, mais tout ce qui pourrait avoir une tendance d'être licencieux, etc. Tout ça entre guillemets, bien entendu. Mais à partir de l'arrivée de la révolution islamique et ensuite de la république islamique, c'est-à-dire à partir de février 79, il y a eu ce règlement dont vous avez lu quelques extraits, et c'est vrai que c'est une question de mœurs et de pensée profonde du peuple, c'est-à-dire un état d'esprit qui au moins régnait en Iran depuis 13 siècles. C'est pour maintenir ce côté tout à fait prude et officiel qu'il y a cette réglementation, et tout le monde est au courant. Je veux dire, il y a deux vies toujours en face de telle censure. Ce qu'on peut faire et que l'on fait dans la rue, et ce qu'on ne peut pas faire et que l'on ne fait pas dans la rue, mais qu'on fait chez soi, n'est-ce pas? D'où le côté vie double, caractère double, que l'on reproche actuellement aux Iraniens, de dire ils ont deux vies, ils ont une vie à l'intérieur de leur maison, dès qu'ils sortent, ils vivent comme on leur a dit de vivre. Voilà.
Il disait qu'en fait, l'image ne pouvait donner que si on imaginait que le monde était une sorte de cube à six faces, l'image ne pouvait donner que montrer qu'une des faces de ce cube, alors qu'en fait, le son, pour lui, prenait les 360 degrés et que en fait, il était facile de maîtriser l'image, vu que c'est sur un seul plan et que donc on fait tout pour qu'il n'y ait personne qui passe dans le champ et que ce soit parfaitement comme on veut, autant il était impossible de maîtriser le son. En fait, finalement, pour lui, c'était très important parce que c'est justement à travers le son que pour lui, la vie continuait dans l'image, même si c'était un tournage de fiction ou de film ou de cinéma. Il y avait en même temps cette vie qu'on ne pouvait pas maîtriser. Il y avait des oiseaux qui chantaient, qu'on ne pouvait pas faire taire, et que des voitures passaient, et que donc cet aspect de non-maîtrise de la chose et de jouer avec le hasard l'intéressait particulièrement.
Moi, je bon cinéma, je le fais avec peu d'éléments, avec un gosse, avec un morceau de pain, avec une rue et avec un chien.
Rasidim, dar khone ye rafiqat haminjast. Aheste etiyat kon. Ebin anje ke rafti ya samt chap dar avval. Mikhay daftar behesh bedi dige. Pas man inje mishinam, raf khastigi mikonam. تا تو دفتر بهش بدی زود بیایی. ببین اونجا اون درن درست نگاه کن، اونو من درست کردم. زود بیا که با هم دیگه بریم.
Alors, on peut revenir sur le pain et la rue. C'était en 70.
Oui, oui.
Alors, le pain et la rue, c'est un court-métrage où, déjà, moi j'ai l'impression que j'ai pas vu, parce que on n'a pas pu voir tous ces courts-métrages en France, mais où sont contenus des objets, des éléments essentiels qui vont apparaître plus tard.
La simplicité du sujet est extraordinaire. Un gosse est allé chercher un grand pain. Les pains sont généralement grands en Iran. Et il doit aller ramener ce pain à la maison. Il arrive dans une rue, il y a un chien dedans. Il a peur, il croit que c'est un chien méchant. Et en fait, quand il s'avance, il voit que c'est tout à fait autre chose. La suite, c'est la surprise que le spectateur découvrira. Vous voyez, c'est vrai, extraordinaire, n'est-ce pas ? En 70, déjà, le résumé de tout ce qui va suivre est dans ce merveilleux petit film. Et c'est l'homme, jusqu'au goût de la cerise, qui prouve que il n'a pas tellement besoin d'acteurs ou d'actrices ou de vedettes célèbres. Et en fait, il se servira une seule fois d'un acteur très connu, c'est dans Au travers des oliviers, où il donne son propre rôle, le rôle du réalisateur, à un acteur célèbre de théâtre.
Les devoirs du soir, c'est un des rares courts-métrages que j'ai vus. Et j'ai trouvé ce film très dur, très difficile à vivre. Ce que je voudrais savoir, c'est si moi j'en ai fait une lecture de française, d'occidentale, en sentant quelque chose de très contraint au fond chez ces enfants qui n'osent pas parler, qui sont interrogés face à la caméra, en gros plan, avec un Kiarostami, avec des lunettes noires, très impressionnant, et qui, dont on sent qu'ils sont absolument sous une espèce de chape d'autorité. Enfin, il y a un problème d'autorité, presque un malaise.
Vous savez, pour arriver au résultat qui consistait à montrer la dureté de la conduite de certains parents à l'intérieur des maisons, il fallait bien recréer cette atmosphère. Très souvent, les enfants sont corrigés, entre guillemets, par les pères qui se servent de leur ceinture. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, hein. On est même vraiment très inquiets quand dans l'obscurité, derrière la caméra, on découvre Abbas Kiarostami avec ses lunettes noires et qui pose des questions telles que l'enfant éclate en sanglots. Et l'enfant regarde toujours apeuré derrière lui, comme si, même au moment des prises de vue, son père risquait d'arriver et de lui faire violence. Alors, ça, c'est pour créer cette atmosphère et donc, en fait, le but est un but d'aide aux enfants d'expliquer l'horreur qui consiste à, dans le milieu familial, à frapper des enfants. Mais il s'en explique quelque part, il dit « la violence existe, alors on est bien obligé de la montrer ». Ça, à propos d'un autre film, il dit ça, n'est-ce pas ? Et pour montrer la violence, on est obligé de faire de la violence à l'écran. Voilà.
On a le sentiment que les enfants finissent par trouver leur chemin dans tout ça.
Oui, c'est-à-dire, alors là, attention, c'est Kiarostami qui voudrait que le peuple iranien, symbolisé régulièrement par les réalisateurs iraniens, par des enfants, trouve sa voie et se remue et arrive à ce qu'ils veulent.
Oui, voilà. C'est-à-dire que l'enfant devient quand même emblématique
Absolument.
De quelque chose d'autre, hein.
L'enfant ou la femme, très souvent aussi dans le cinéma iranien, on essaye de jouer sur l'amour maternel, sur les relations comme ça, pour éviter de parler trop de situations qui tomberaient d'une manière ou d'une autre sous le coup de la censure.
«
Où étais-tu? Je vais acheter du pain. Pourquoi as-tu été à Pochte? Pour rendre le cahier de mon copain. Tu l'as rendu? Non. Va me chercher des cigarettes. Je vais au pain, après il n'y en aura plus. C'est un ordre, mes cigarettes. C'était pas pour les cigarettes, je veux lui donner une bonne éducation, qu'il soit utile à la société. Quand j'étais gosse, mon père me donnait 10 sous par semaine et tous les 15 jours, il me frappait aussi. Parfois, il oubliait les sous, mais il n'oubliait jamais de me frapper. Si le gosse ne commet pas de faute, que fais-tu? Je cherche un prétexte pour pouvoir le punir, pour qu'il n'oublie pas.
Mamad Aghighat, vous avez passé votre enfance en Iran?
En Iran.
Est-ce que parfois vos souvenirs d'enfance à vous peuvent coïncider avec ce qui est dit et ressenti par les enfants dans les films de Kiarostami?
Ah oui, énormément, énormément. D'ailleurs, ça m'est arrivé exactement à peu près la même chose qu'à l'enfant de le passager. Et moi, un jour, je voulais aller voir un film de Shahid Saleh dans une autre ville. C'est un grand réalisateur. Et donc, j'ai fait tout pour gagner un peu d'argent, pour prendre un bus et d'aller voir un film de Saleh en 74. D'ailleurs, le film Le Passager, il est tourné en 74. C'est un hasard bizarre. Et que quand je suis arrivé à Shiraz, à la ville de Shiraz, j'étais si fatigué que pendant le film, j'ai dormi. Et comme c'est dans le gamin de passager, quand il arrive à Téhéran et pendant le match, il s'endort.
Donc ces films de Kiarostami, vous les avez au fond un peu vécus?
Je me souviens aussi que mon père, il me battait avec ceinture quand je faisais des bêtises, etc. Comme les enfants de...
Les devoirs du soir.
Devoirs de soir. Mm-hmm. C'est, en tout cas, il montre bien, à mon avis, la société iranienne. Il y a une bonne miroir, si vous voulez, de la société iranienne, Kiarostami.
سه دفعه میتون گفتم بازم مشغول بیدم در نمیشتی من حالا نمیگیرم پارهش میکنم یا آخرین دفعه باشه
Vous savez, Kiarostami est un cinéaste, à mon avis, cruel, et son cinéma est cruel. Parce que le réel est cruel, et parce que chaque fois qu'on veut aborder le réel, on ne peut ne pas aborder la cruauté. Et peut-être c'est le prix à payer aussi en ce qui le concerne, pour que nous, une fois quand on voit le film, on puisse se dire « tiens, mais tout ça, ça existe ». Quand j'ai vu la première fois le film, c'est vrai que ça m'a tellement touchée et troublée que je n'ai pas pu. C'est-à-dire, moi, après, je me débattais pour dire que, à mon avis, il ne peut pas être un fasciste ou un je ne sais rien quoi, parce qu'alors de tout, on l'a accusé pour avoir filmé comme ça les enfants.
On l'a accusé d'être fasciste?
Oh oui, mais j'ai entendu même les Iraniens de dire
Iraniens.
Ça. Que c'était une attitude de fasciste, de cadrer comme ça, avec des lunettes noires, regarder ses enfants en face et tout et tout. Bon, pour moi, non, ça ne m'a pas évoqué ça. Mais quand j'ai revu cet été justement ce film, ce qui m'a peut-être choqué cette fois, c'était que devant la souffrance des autres, Kiarostami est capable de tenir sa caméra et faire durer l'image. Ce que peut-être un autre cinéaste Parce que bon, de toute façon, que la caméra tourne ou que tourne pas, n'aurait rien changé dans l'attitude de l'enfant. Mais qu'un autre cinéaste aurait dit couper parce qu'il pouvait plus imaginer filmer cette scène. Mais lui, il continue et en plus, il fait durer les questions pour que la souffrance continue en quelque sorte.
Alors, l'enfance.
Quelqu'un m'a parlé un jour d'une idée plaisante et étrange que je partage. Disait, j'oublie tellement les jours qui passent que je deviens chaque jour un autre. Pour cette raison, je ne me souviens plus de mon enfance, qui est trop derrière moi. Je n'ai pas le temps de regarder derrière moi. Je préfère penser au présent, même à l'avenir, et en parler.
Moi, je revois le visage d'un enfant dans les devoirs du soir. C'est un enfant qui se met à pleurer, qui regarde derrière lui d'un air apeuré. Et c'est à cette enfance-là que je pense.
Moi, exactement de cette enfance-là que je ne voudrais pas parler. Parce que je l'ai mis derrière moi, cette enfance-là. Et je n'aimerais pas revenir, et je n'ai même pas le temps de revenir pour savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y avait.
Où est la maison de mon ami, ce qui me frappait aussi, c'était cette façon de capter le monde de l'enfance, cette salle de classe, ce naturel des enfants, presque un naturel documentaire. Et car je crois là aussi qu'il y a chez Kiarostami une contradiction qui n'en est pas une, qu'il a résolue, entre le cinéma documentaire et le cinéma de fiction. C'est-à-dire, je pense que finalement, les films sur la classe qu'il a fait, qu'il a filmé, au fond, on en retrouve presque les mêmes échos dans ses films de fiction. Et c'est ce mélange, je crois, de concret à travers les paysages, les visages, c'est-à-dire ce sens de la matière, qui va en même temps avec une extraordinaire abstraction dans la construction de ces films, qui sont des films philosophiques, des films au bord de l'abstraction, d'une certaine façon. Là aussi, je crois que c'est très propre à la culture persane, ou même peut-être à la culture, alors là, plus largement musulmane. Et c'est cette sorte de conjonction d'un réalisme rossellinien, disons, et en même temps d'une réflexion sur le cinéma, une réflexion sur l'image, qui est très sophistiquée et qui n'est pas du tout propre au néo-réalisme, mais qui est propre plutôt au cinéma d'aujourd'hui. C'est cette distance qui est, je crois, une des caractéristiques du cinéma de Kiarostami.
Thank you.
حالا پس یکی سوال بکنه. یه جمله خیلی قشنگی تو خیابون راه میافتم، گفتم یه جواب خوب دارم، کسی هست که سوال بکنه؟
Il dit, quand je marchais dans la rue, je me disais, mais j'ai une très bonne réponse, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question?
Non, quand je lui posais la question de cinéma dans le cinéma, il met une bonne distinction entre, par exemple, Devoir de soir, que pour lui, c'est pas un cinéma dans le cinéma, et ce qui est le cinéma dans le cinéma. Donc, je lui dis, il n'y a qu'à nous le dire, d'accord? Okay. Oui. Donc, je lui pose la question que cinéma, dans le cinéma, c'est quoi son avis et ça commence par quoi? Là, je passe la question à vous. Je
réponds à la question. Je pense que je n'ai aucun intérêt pour le cinéma dans le cinéma. یعنی تصور اینکه یه فیلمی سینما در سینما بسازم. اولین بار فکر کنم در کلوزآپ اتفاق افتاد، بلکه یه آدمی بود که اصلا عشق سینما بود. به همین دلیلم ما ناچار بودیم که راجع به سینما توی سینما حرف بزنیم. کما اینکه اگر این آدم یه پزشک بود، ما نمیگفتیم پزشکی در سینما. چطور حرفه سینما رو، یعنی تمام حرفه‌ها بتونن دلیل داشته باشن برای اینکه حضور پیدا کنن تو سینما؟ فقط خود سینما حق نداره که حضور داشته باشه. معمولا وقتی میاد شبیه یکی از حرفه‌های موجود وارد سینما میشه، نه سینما در سینما.
Je n'avais aucune intention de parler du cinéma dans le cinéma. Il se trouve qu'à partir de Close-Up, il s'agissait d'un homme qui était passionné du cinéma. Donc, j'ai parlé du cinéma dans le cinéma à partir du Close-Up.
Le cinéma ici est présent en tant qu'un métier, un métier qui passionne un homme.
Ce n'est pas seulement Close-Up qui présente le cinéma dans le cinéma. On le retrouve dans d'autres films, dans Au travers des oliviers, et dans Et la vie continue aussi. Il y a une persistance de l'œil, du regard, du visuel.
Ces trois films ont nécessité cette démarche particulière. Et la vie continue a été filmée d'après la réalité d'un tournage. Au travers des oliviers, c'est l'histoire de deux personnes qui se sont connues devant la caméra. Ces trois films sont nés par accident, les uns après les autres. Ce n'était pas pour faire du cinéma dans le cinéma, ce qui est devenu une mode, une sorte d'autocomplaisance. Je promets de ne plus recommencer.
Étudiant à la FEMIS.
Barmak.
Et j'ai entendu parler de Kiarostami par M. Narboni, qui était un de nos professeurs, et M. Jean-Claude Carrière, qui nous ont fait découvrir. Et à cette époque-là, on venait juste de connaître son film qui était Close-Up, qu'on n'avait jamais vu. Ce qui m'a touché particulièrement déjà, parce que c'est un film qui est en fait sur la mythomanie, en quelque sorte, et que tout exilé, quelque part, est atteint un peu par la mythomanie. En tout cas, peut-être que ce n'est pas une généralité, mais il y a une bonne partie, et c'était un peu mon cas aussi, dans le sens où, en fait, on a toute une passée qui est effacée et qu'on peut recommencer à raconter de la manière qu'on veut, vu qu'il n'y a pas de référence pour ceux qui nous écoutent.
Alors vous êtes exilé, vous n'êtes pas iranien.
Non, moi je suis réfugié politique afghan, et depuis que la guerre a éclaté en Afghanistan, deux ans après, je suis venu en France en 81. Et donc j'ai découvert ce film qui pour moi était vraiment très très fort, parce que j'avais une très grande envie de faire des documentaires, et que pour moi c'était vraiment le documentaire par excellence, d'autant plus qu'il y avait même des parties reconstituées qui pour moi étaient quelque chose d'impossible, et que je voyais si bien fait.
سلام علیکم. من حسین سبزیانم.
چی؟
سبزیان. مخمل باف.
ببخشید مخمل باف هستم، محسن مخمل باف. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ چندو محسن؟ دفعه اول اومدی چند وقت پیش بود؟
Close-up, c'est justement un film qui est à la croisée de la fiction et du documentaire, puisqu'il s'agit au départ d'un fait divers que Kiarostami a découvert dans un journal, c'est-à-dire il a appris qu'il allait y avoir le procès d'un homme qui s'était fait passer pour un grand cinéaste iranien, Mohsen Makhmalbaf, qui est certainement aujourd'hui le numéro 2 du cinéma iranien, dont un peu toujours dans l'ombre, hélas pour lui, de Abbas Kiarostami, mais un auteur extrêmement inventif aussi. Donc un jeune garçon qui, auprès d'une famille riche de Téhéran, s'est fait passer pour Mohsen Makhmalbaf, s'est introduit dans leur intimité, a prétendu vouloir faire un film sur eux, etc., avant que l'imposture ne soit découverte et qu'il soit donc passé en jugement. Et donc Kiarostami a à la fois filmé le tribunal, il a filmé les séances du tribunal en autant de séquences d'un film de Kiarostami, mais en même temps, il a demandé aussi à ce personnage d'interpréter, de revivre des situations, et également il le fait rencontrer l'homme dont il a été le sosie, il s'est voulu le sosie pendant quelque temps auprès de cette famille. Donc il y a tout un jeu d'écho sur qu'est-ce que le cinéma, qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce que la reconstruction de la réalité.
برداشت یک پلان یک دادگستری 18-868.
C'est le titre qu'on utilise, si vous voulez, là-bas on dit close-up, sinon en persan on dit namaye nazdik.
Et ça veut dire quoi ?
Gros plan. Gros plan parce que dans le procès, pendant la scène de procès, il met deux caméras. Il met une caméra pour filmer le procès, et puis il met une caméra uniquement en gros plan sur Sabzian. Il dit, si les autres ils vont pas te croire, tu dis au moins à moi ta propre version. Donc cette caméra-là, c'est un gros plan uniquement pour toi. Et l'autre caméra, c'est pour autre version, la version des autres gens qui sont dans ce procès, comme le chef de tribunal qui est un mollah ou d'autres gens qui sont là.
Sabzian. Je n'ai jamais eu l'intention de monter une escroquerie. Légalement, c'est un chef d'accusation acceptable, mais pas moralement. Tout cela est arrivé en raison de mon penchant pour les activités artistiques. Enfant, j'allais beaucoup au cinéma. Je jouais à faire des films avec mes camarades. Mais n'ayant pas les moyens financiers, j'ai dû renoncer à mes envies artistiques. D'autre part, un escroc fait des préparatifs qui revêtent des apparences trompeuses. Je n'ai rien fait de tout cela.
Le juge, quel était le mobile pour lequel vous vous êtes fait passer pour M. Makhmalbaf? Sabzian, je l'admire parce qu'il dépeint dans ses films la souffrance. En fait, il parlait à ma place, de gens comme moi, surtout dans la noce du béni. J'ai également bien aimé le passager de M. Kiarostami. Je suis comme le petit garçon du film qui prend des photos des gens alors que son appareil n'est pas chargé, pour pouvoir aller à Téhéran voir un match de foot, mais qui s'endort et rate le match. Moi aussi, j'ai le sentiment d'avoir manqué le match.
Est-ce que c'est un documentaire? Est-ce que c'est une fiction? Ça, c'est le jeu de cinéma que Kiarostami fait. Donc, il fait de telle manière que vous, spectateurs, vous ne pouvez pas dire vraiment est-ce que c'est un documentaire ou est-ce que tout était reconstruit.
Et l'image, on les voit tous les deux sur la moto.
Ouais. Mais à la fin, justement, il veut montrer le faux et le vrai, juste là, à côté de l'autre. Makhmalbaf, le vrai, il va à la prison pour accueillir le faux Marmalbaf qui sort de la prison. Et tous les deux, ils vont chez la famille qui apporte plainte pour s'excuser. Mais à ce moment-là, ils ont plein de choses à se dire. L'admiré et l'admirateur. Et en ce moment-là, le cinéaste, Kiarostami, il coupe le son. Il ne veut pas que le spectateur entende ce qu'ils disent entre eux. Il laisse imaginer, il laisse qu'on devine ce qu'ils se disent, ces deux personnes, le faux et le vrai.
Mamad Aghighat.
Personnellement, je trouve que c'est son meilleur film, parce qu'à travers ce film, on peut analyser la société iranienne au moment où le film était tourné, c'est-à-dire en 1990. C'est tout de suite après la guerre et que chacun cherche une identité, donc il se met à la place des autres. Il y a plein de choses de lire, de voir dans ce film-là qui est extrêmement important. D'une part et d'autre part, cinématographiquement, je trouve qu'il est... C'est un film qui domine Kiarostami, tandis que dans les autres films, c'est Kiarostami qui domine ces films. Le sujet, il est si fort et ça passe si rapidement, si vous voulez, les choses, parce que c'est un procès en cours, il faut aller filmer direct, tout de suite, et qu'il n'a pas le temps de réfléchir et de maîtriser tout pour que lui, le réalisateur, il devienne dominant. Donc c'est le sujet qui est beaucoup plus fort que lui et il attire le réalisateur avec lui-même. Tandis que dans tous ses autres films, il réfléchit longtemps à l'avance, il va voir plein de fois le lieu de repérage. Par exemple, en ce moment, il est en repérage d'un film. Ça fait plusieurs fois qu'il va, qu'il vient, qu'il regarde, qu'il parle avec les gens, qu'il prend des photos.
Qu'est-ce qu'il fait comme repérage là, en ce moment?
Dans son prochain film qui s'appelle « La cérémonie spéciale », qui va tourner dans quelques mois. Mais ça fait 6 mois qu'il répète, qu'il va tout le temps sur le lieu où il doit tourner le film, pour voir les décors, pour voir les gens. Pour chaque film, il fait ça. Pour, par exemple, et... au travers des oliviers, pour le goût de la cerise et tout. Il met beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avant qu'il commence le tournage.
Abbas Kiarostami, vous écrivez vous-même vos scénarios?
Oui.
Comment ça se passe, cette écriture?
بعد ایده کامل نشده رو میبرم توی لوکیشن واقعی و با اون ایده تو لوکیشن یه مدتی زندگی میکنم و بعد سعی میکنم نابازیگران پیدا کنم با اونا برم تو لوکیشن و بعد ذره ذره خودم تو فیلم واقع میشم قبل از اینکه شروع کنم به نوشتن.
J'espère que j'arriverai à dire dans l'ordre. D'abord, j'ai l'idée. Après, pour cette idée-là, j'ai essayé de trouver une location, enfin, un repérage, un espace, un lieu dans ma tête. Et après ce lieu, je vais le chercher, je vais le repérer réellement dans le pays. Après. Après, il va chercher ses non-acteurs. Enfin, il ne dit pas les amateurs, c'est non-acteurs. Et après, avec eux, il va sur ces lieux-là. Et après, il va repartir, il va aller souvent sur ces lieux-là lui-même pour les vivre, pour vivre ces espaces-là, pour vivre dans ces espaces.
در پایان احساس میکنم که من توی به جایی که فیلمو از بیرون نگاه کنم من خودم توی وسط فیلم هستم یعنی در واقع دیگه سخت نیست نوشتن
Et à la fin, il a l'impression qu'il n'est plus en train de regarder le film de l'extérieur, il est à l'intérieur du film. Et donc à ce moment-là, c'est plus un problème d'écrire.
Tout film jadid, shive kar jure dige bud, durbin makhfi gozhtam tu mashin, gayam pesaram mishast va hamin pishnehad bisharmana ro tu khiyamon be mardom kardam tu hamon mantaqe va bad ye film gereftam va dialogam ro goftam va bad in dialog ro in kaset ro einan dadam be aghay badi, yani ye bar in film ro man bazi kardam khodam. بعد کاسه دادم به آقای بدیعی و گفتم که اینو چندین بار ببین حدود یک ماه هر روز روزی دو سه بار دید و روزی که قرار شد فیلم برداری کنیم پشت فرمون ماشینش نشست و دیگه ما راجع به بازی حرف نزدیم دیالوگا رو حفظ شده بود کاملا حسم از خودش داشت این ترکیب باعث شد که چیزی که شما دیدید
Pour le film du goût de la cerise, c'était un peu différent. La procédure, c'est que d'abord, j'ai mis une caméra cachée dans la voiture et avec mon fils, on est allé dehors. Et on a posé cette question un peu osée à tous les gens, c'est vrai, et on les a enregistrés. Ça rapporte à la question de demander aux gens de venir le recouvrir de la terre. Le recouvrir en quelque sorte finalement. Et après j'ai joué ça avec mon fils, filmé par mon fils, et on en a fait un film entier sur une cassette qu'on l'a donné à Monsieur Badi, enfin le non-acteur qui joue le personnage. Et pendant un mois, il regardait le film tous les jours. Et le moment où après on a commencé le tournage, il avait déjà été imprégné il connaissait les dialogues par cœur et il était imprégné du film qu'il avait vu sur la cassette. Et donc on n'a même pas parler de son jeu ou de la mise en scène.
Le dernier film, le goût de la cerise, est entièrement un voyage en voiture. Alors évidemment, là, c'était finalement là aussi la rencontre du réalisme et de l'abstraction, parce que le réalisme, c'était évidemment ce tour de force de tourner entièrement dans le goût de la cerise à l'intérieur d'une voiture, avec des contre-champs sur les trois passagers, un soldat, un séminariste et un employé du Muséum d'Histoire Naturelle, qu'il va interroger constamment pour leur demander s'il pourrait venir l'enterrer au cas où il se suiciderait, jeter les pelletées de terre sur sa tombe pour être enterré comme il se doit, et qui est donc d'un réalisme étonnant, presque dans la durée des interrogatoires. Et puis d'autre part, à nouveau, à travers la voiture, là aussi une réflexion sur le cinéma, puisque la voiture c'est le travelling, le pare-brise c'est l'écran, et où effectivement, voyager en voiture c'est un peu, au fond, découvrir le monde comme on le découvre à travers un écran de télévision ou à travers un écran de cinéma.
Ah, ce dernier film semble être un peu un testament sur l'ensemble des choses qu'il avait faites et d'une gravité exceptionnelle. Je crois qu'il y a dans tous ses films précédents, dans toute son œuvre, un sourire que l'on ne trouve pas dans le goût de la cerise, bien qu'il y ait des moments plus légers. Tout n'est pas en tension. Il y a des moments vraiment où le paysage domine à nouveau, où les gens, particulièrement une personne âgée, raconte sa vie et de nouveau on retrouve une légèreté de la vie persane chez lui, mais l'ensemble est dominé par la recherche de la mort qui hante cet homme dont on ne saura jamais le destin.
Le paysage, vous parliez du paysage.
Oui, dans ce dernier film, vous savez, il abandonne complètement les verdures du nord de l'Iran, des régions de la mer Caspienne, et reste aux environs immédiats de Téhéran, aux collines qui dominent la ville, à ces espèces de ronces qui poussent là-bas et aux petits arbres que l'on essaie de planter maintenant pour rendre ces collines un peu verdoyantes. Et la photo est d'une qualité exceptionnelle dans ce dernier film. Il a une manière de pouvoir jouer avec différents tons de la nature, avec des changements de saison qui sont absolument extraordinaires. Par exemple, ici, les heures du jour sont marquées d'une manière tout à fait caractéristique, bien que ça soit très dur à faire ça, parce que c'est un pays de soleil, l'Iran, et il est difficile de marquer ces changements. Et alors, il a ces nuances quand même, avec un climat aussi entier.
Alors, le paysage dans Le goût de la cerise, c'est une presque, je dirais, un contre-paysage, dans la mesure où on a affaire à des machines qui vont creuser la terre, qui remuent la poussière. Et c'est un petit peu le contraire, il me semble, et la vie continue avec le tremblement de terre, où la poussière, c'était la poussière de la destruction, alors que là, c'est la poussière de la reconstruction.
De la reconstruction. D'ailleurs, je crois qu'il a un peu un sens critique vis-à-vis de cette reconstruction, n'est-ce pas ? Parce que quand il montre la nature avec les ronces et les petits arbres, c'est toujours plus beau que ces machines au travail et ces gens qui s'acharnent à faire de grandes maisons, des tours pratiquement, dont on voit quelques-unes quand il fait des plans d'ensemble de la ville de Téhéran. Et d'autant plus important de montrer ces machines et ces hommes au travail, que le grand symbole, c'est la terre, et la terre qui roule et qui coule pratiquement, qui remplace les eaux qu'il avait montrées jadis dans ses autres films. Et ici, cette terre qu'il souhaite que l'on puisse prendre pour le recouvrir le jour où il se sera suicidé.
Abbas Kiarostami.
C'est le seul film dont je suis vraiment satisfait pour la bande-son. On a filmé en automne, des couchers de soleil. Le chant des oiseaux dans les collines est plus érotique que la chaleur du soleil couchant d'automne. En entendant la nature, les gens qui travaillent, et pendant ce temps, quelqu'un veut se détacher d'eux. Il ne veut plus vivre, c'est le thème du film. On a beaucoup travaillé le son, parce que le son est une part importante de la vie, une part importante de l'existence, une part importante du cinéma.
Chez Kiarostami, c'est quelque chose d'une évidence pour moi troublante, mais c'est d'une évidence totale. C'est comme le vieux de cette vieille femme qui est morte sous le décombre et qu'elle essaye seulement de sauver le tapis parce que ça va lui servir à quelque chose. Et le mari qui est mort, qu'est-ce que ça peut apporter ? La mort, c'est une évidence.
Même la mort d'un enfant ?
Même la mort d'un enfant. Il l'accepte parce que c'est comme ça que les choses se passent et que comme ça qu'on avance. Dans son dernier film, c'est la mort encore. C'est une mise à mort. Mais cette mise à mort, pour moi, c'est seulement pour trouver une raison pour vivre. C'est pas parce que j'ai envie de mourir. C'est pas un désir de mort tellement que c'est un désir de trouver des raisons pour vivre.
Vous ne trouvez pas qu'il y a une insistance quand même dans la façon de vouloir être recouvert par la terre, de chercher quelqu'un qui vous recouvre après votre mort?
Ça aussi, moi, je ne chercherai pas des significations, parce que je pense que plutôt ce qui est peut-être important, c'est le geste même de cet homme, que c'est un prétexte de se couvrir de la terre, parce que finalement, il y a le thème de la poussière et la terre dans notre littérature. On devient, après la mort, on devient de la poussière, et on est sous la poussière dans ce film.
Il n'y a que ça. Il y a beaucoup de poussière.
Il n'y a que ça.
Sahvet hamuni ki tu tufayn dasit. Bil dasit nemişit. Dasit zahre bil nemişit.
Abbas Kiarostami.
Il mitune be do ta mafhum kamelan.
Cet homme peut avoir deux raisons contradictoires. Et ça ne veut pas dire qu'il désire une cérémonie telle que le propose la religion. Non. Il y a diverses raisons. Que je devine, non comme réalisateur du film, mais comme son spectateur. Souvent, ce n'est pas parce qu'il veut se suicider, mais parce qu'il veut avoir un dialogue avec quelqu'un. Il veut que quelqu'un l'écoute. Comme on a besoin de témoins pour les moments de bonheur et de joie, même pour le mariage, pourquoi ne pas avoir un témoin pour la mort? Même s'il veut se retirer du monde sans cérémonie, il voudrait cependant avoir un témoin pour ce jour important de sa vie, qui est le jour le plus important après celui de sa naissance.
Quand j'étais dans la salle de montage, à un moment, après une journée de silence, à un moment, il m'a dit « Tu vas voir une minute 33 de pleine lune. » Et moi, je redoutais un peu l'instant, parce que, bien sûr, les derniers plans de Kiarostami, c'est toujours très ouvert, très signifiant. Alors, il a mis donc, la machine en marche, la table de montage, et donc j'ai regardé. Et après la vision de ce plan, moi aussitôt, il y a un poème de Khayyam qui m'est venu à l'esprit et que je lui ai prononcé et qui est le suivant. Mahtab banur daman shab beshkoft. Mai khor ke dame behtar az in natwan yoft. Mai nosh o mai andesh ke mahtab base andar sar khak yak bayak khahat toft. Et la traduction en deux mots, c'est la lune a percé la robe de la nuit, bois du vin, car tu ne trouveras pas un instant meilleur que celui-là. Bois du vin et pense que la lune se lèvera sur notre tombeau.
Sur notre terre.
Chok, ça veut dire à la fois, Sarechok par exemple, ça veut dire sur la tombe de quelqu'un. Mm-hmm. Donc sur nos terres, sur nos tombe, la lune repassera bien des fois après nous.
Abbas Kiarostami.
Au lieu de finir le film dans le noir, ce qui fait que les spectateurs, seulement en sortant, trouvent qu'effectivement la vie continue, je voudrais moi-même continuer la vie dans le film. Mais simplement, je ne voulais pas que ça se confonde avec le film. Pour cette raison, du point de vue technique, j'ai choisi la vidéo, qui est un appareil d'usage familial. Je m'en sers comme un témoin. C'est collé au film, mais qui ne se confonde pas avec le film. Garde ses distances.
خب تصور منم همین بود که من
Au lieu de montrer la mort ou un homme mort, j'ai voulu montrer la mort de manière cinématographique, en coupant le son et l'image, ce qui signifie pour moi la mort. C'est pour cela que le film se termine dans l'obscurité totale. Je me suis dit que c'est comme si je tuais le cinéma et comment je pourrais me le permettre. Le personnage est mort, mais pas le cinéma.
Une idée du prochain film. Comment s'appelle le prochain film?
Le film en yandé, comment داستانش چیه؟ اسمش رو میتونید به ما بگید؟
اسمش رو میتونم بگم، اسمش از سرمونی اسپیشیال و راجع به یک سرمونی اسپیشیال.
Ce nom est cérémonie spéciale et c'est à propos d'un cérémonie spéciale.
چی نمیگین داستان تعریف کنید یا
زمینه میزنید؟ میترسم یه بخون ماجرا تعریف کنم بعد توی فیلم برداری انقدر عوض میشه که بعد بگیم اونا که تعریف کردی کجا رفت. من چیزی اجازه بدیم فیلم
ببینیم. Raconte pas parce que j'ai peur qu'après ça change et qu'on me demande des comptes pourquoi t'as dit cela et après on le retrouve plus dans le film quoi.
Autrement dit, la vie continue.
بنابراین زندگی همچنان ادامه داره.
دقیقا همین باید باشه به نظر من. هر فیلمی، هر تصویری و هر صدایی به نظر من قبل از اینکه یه معنی دیگه داشته باشه، معنای اصیلش در اینه که زندگی ادامه داره.
Je pense que chaque plan, chaque image, toute chose avant d'avoir un autre sens ou prendre un autre sens a ce sens spécifique, c'est-à-dire la vie continue.
حتی سای پایین آدمی که هی مثل اعتراض داره میگه ما چرا انقدر نشستیم، قبل از اینکه اعتراضشو بگه داره میگه زندگی ادامه ده.
Même les pas qu'on entend de la personne qui marche à côté et apparemment proteste parce que notre entretien dure, ce bruit de pas simplement n'est pas une protestation, mais aussi ça veut dire que la vie continue en dehors de notre entretien.
La force de ce titre, La vie continue, qui revient tout le temps, est-ce que ça a un écho particulier dans un pays qui a souffert ?
آیا تمام نیروی این مفهوم این تیتر زندگی ادامه دارد؟ آیا معنای ویژه‌ای پیدا می‌کنه در کشوری که رنج زیاد برده؟
فکر می‌کنم که خب این البته من با تعریف با جواب این باید قبول بکنم که رنج زیاد برده، ولی خب باید به اینم اشاره کنم که رنج چیز بشریه، همچنان که لذت یک لذت بشریه، به هر حال هر دو تاش با همه، ولی من تصورم اینه که درک لذت بدون رنج امکان پذیر نیست.
Effectivement, peut-être que je suis contraint à dire que ce pays a souffert. Mais en même temps, la souffrance est quelque chose de très humain, de la même manière que le plaisir est quelque chose de très humain, et que sans cette souffrance, le plaisir n'aurait pas de sens.
Je suis un chauffeur, c'est que je dis, « Az dast qaybat tu shikayat nemi konam, ta nis qaybati nadahad lezzati huzur. »
Il y a un poème de Hafez qui dit, « Je ne me plaindrai pas de ton absence, car tant qu'il n'y a pas d'absence, il n'y aurait pas le plaisir des retrouvailles. »
Thank you.
Ciné-club Abbas Kiarostami par René Alcaïm Bollinger. Avec Mojdeh Family, Farok Ghaffari, Mamad Aghighat, Michel Simon, Barmak Akram et Abbas Kiarostami. Équipe de réalisation, Michel Créis, Nathalie Fado, Claude Giovanetti.
Cette émission a été diffusée le 3 décembre 1997 sur France Culture.